Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
Salut Martin!
Allô, allô, allô!
Allô,
comment allez-vous?
Ça va bien, bien. Martin, écoute, nous, ça va bien, pour vrai. Comment, comment par exemple, le Canadien peut abandonner comme ça, pour vrai?
C'est
là.
Incroyable.
On se présente
Martin,
pas.
En Arizona, les Coyotes sont en déconfiture totale. Ils ont seulement 2 victoires. Le pauvre André Tourigny, notre collègue québécois, notre compatriote, est entraîneur là-bas. C'est pas facile ce qu'il vit. L'organisation est tout croche. Mais le monde s'en fiche.
Ouais, exact. Ouais. C'est pas grave.
Ils
n'en
ont
bon.
Rien à cirer. Exact. Rien à cirer. C'est l'indifférence totale.
Bonjour au golf.
À Montréal, quand tu lâches, comme les joueurs du Canadien ont lâché hier, après le 3e but en première période, pas en deuxième, là, en première période, ça, c'est inacceptable.
Ouais.
Je pense que les partisans voient des choses. Là, ils sont pas fous, ils sont pas
ben
caves. Price est pas là, Weber est pas là, le leadership est pas solide. Dano aurait jamais dû partir.
Ah,
il
Dieu.
Est parti.
Ça fait mal.
Bon, puis l'équipe a pas bien repêché ces dernières années. Il y a pas énormément de bonnes relèves. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Les partisans sont pas caves, ils voient ça, ils comprennent ça. À la limite, là, je sens que les gens sont prêts à leur donner une chance de continuer de reconstruire, mais manque d'effort,
Martin,
manque de fierté, ça, c'est inacceptable.
C'est la seule chose, depuis que je suis hockey, qui fâche les partisans. Quand il n'y a pas d'effort. Je te demande même pas de résultat. Il y a des joueurs qui ont, exemple Steve Bégin, il aurait été jamais hué. Il l'a jamais été puis il sera jamais. Parce qu'il a jamais triché. Francis Bouillon, il a jamais triché. Et il y a des gars présentement qui trichent. Puis c'est pour ça qu'ils se font huer.
Ils trichent, Martin, parce qu'ils ont plus énormément de réponses. Puis c'est ça qui est un peu dommage. Puis là, le coach, Dominique Ducharme, pour qui je lève mon chapeau, il va au front.
Ouais,
là,
il
hier encore,
coups, là.
Mange des taloches sur le museau. Puis là, il peut plus beaucoup excuser ses joueurs.
Non.
Des fois, il a essayé de les protéger, mais hier, il fallait qu'ils disent qu'ils ont été mauvais. Il l'a dit. Mais là, je trouve que l'ascenseur devrait revenir parce que il les protège un peu depuis le début de l'année, puis l'ascenseur revient pas. Puis ça m'énerve. L'autre affaire, faut faire un parallèle aussi avec Vancouver.
Ouais.
Juste pour m'expliquer bien vite, là.
Ouais.
Hier, le directeur général des Canucks, 9 défaites en 11 sorties, il sort. Là, il dit « Tout le monde est sous évaluation. On considère tout actuellement. L'entraîneur, les joueurs, tout le monde est sous évaluation. » À Montréal, là, à matin, si Marc Bergevin, même s'il voulait faire ça, là, il est en fin de contrat, on n'a pas d'indication qu'il va être renouvelé, alors il peut pas aller sur la place publique ce matin puis dire « Tout le monde est sous évaluation » parce que lui, il est en fin de parcours.
Mais à ce moment-là, c'est à Jeff Molson de faire ça, là.
Voilà, on est rendu là.
Ben oui.
Ah ouais. Hein?
Alors tu sais, il va Martin, les amis, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que les partisans accepteront pas que la maison se démolisse en morceaux comme ça et qu'il n'y ait pas personne qui dise hey, wow, wow, wow.
Il y a des huées, des bancs vides.
Ah, puis ça c'est pas fini parce que si le Canadien ajoute encore des performances à la maison comme ça, c'est pas fini ça.
Non.
Malheureusement, parce qu'à un moment donné, faut avoir un peu de croquant en dessous des dents. Là.
Ouais. Moi, la serviette, il y a plusieurs personnes, la serviette est déjà lancée, ils ont déjà abandonné. On veut voir, par contre, une impression de changement pour...
Une volonté.
Absolument, ça, c'est un bon point.
De quoi qu'ils se préparent pour l'année prochaine, échanger des vétérans. De quoi qu'il se passe.
Parce que, et ça résume un peu, si tu résumes bien, parce que les partisans à Montréal... sont mûrs. Ils sont émotifs, mais sont mûrs parce qu'ils sont prêts à accepter certaines choses et à comprendre certaines choses. Et il faudrait juste qu'on leur explique et qu'on mette des choses en avant une fois pour toutes, puis qu'on arrête de tourner en rond.
Martin, c'est comme ça que je t'aime, émotif. On va se parler de cette initiative du premier ministre la semaine prochaine.
À un moment donné.
La semaine prochaine, on fera ça, parce qu'on va, ça va être dans l'actualité encore dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci, mon ami. Bon match quand même. Demain, c'est contre les Preds.
Fin de semaine, quand les Preds, là, il y a une chose qui pourrait sourire aux Canadiens. Vous savez que les Sénateurs jouent pas cette semaine. On les a mis en pause à cause de la COVID. Mm-hmm. Là, les Prédateurs sont arrivés à Montréal avant-hier.
OK.
OK. Ils sont depuis à Montréal avant-hier.
Les bars sont ouverts depuis le
temps. Ils l'ont échappé un peu.
Ben, moi je pense que Montréal étant Montréal, puis on sait ce que les autres personnes de la Ligue nationale pensent de Montréal. Moi, je pense que demain, le Canadien a une chance.
Merci infiniment, Martin. Bon match. On se reparle la semaine prochaine.
Salut.
Bye,
salut.
Martin. Martin McGuire,
On se rapproche à ce qu'on peut.
Puis on aime le hockey. C'est ça notre défaut, Colin. On aime ça. On aime le Canadien, puis on veut qu'il fasse bien.
Le podcast Debout les comiques.
Comme à chaque vendredi, Danick Martineau nous accompagne et nous propose une parodie. Pas une parodie, mais une parodie
sur Love Yourself de Justin Bieber cette semaine.
Ah oui, okay.
Je vous parle de mon corps. Avant, j'aimerais saluer, là, on a reçu un petit message, j'aimerais saluer Jessie et Amy Poirier qui nous écoutent en ce moment. Merci les filles d'être là et j'espère que vous allez être contentes d'être levées si tôt. Vous allez entendre une de mes chansons qui est sur mon corps, comme j'ai dit. Et vous allez comprendre mon casting, j'ai l'air de quoi, pour les gens qui m'ont jamais vu. Vous commencez à m'entendre. Et j'ai quand même une voix grave. On m'a dit toute ma vie, moi, les gens vont faire le saut quand ils vont voir la face parce que t'as l'air plus jeune que ta voix. Fait que c'est ça. J'ai une baby face, j'ai un grand slack, puis j'ai pas
beaucoup
de poils.
Ta voix a des réères beaucoup, hein, toi. Et ces préarrangements sont faits. Mais faites pas le saut, il n'y a pas la face qui va avec.
Non, exact. Donc, c'est ça que je vous dis dans cette chanson.
T'as pas une voix de puceau comme tout le reste de ton... Hein? Hein? Qu'est-ce qui se passe?
Donc, ça va comme suit.
Ouais, on écoute.
Les étoiles qui brillaient dans le ciel, puis ma cuillère dans crème glacée caramel. Je peux bien me le permettre, faut que je prenne un peu de poids d'inche. J'ai l'air d'un balai si on regarde juste le manche. M'envole dans les airs quand il vente un peu. Dans le linge de Martin, on rentre deux. Quand je vais à l'aubaine riche, je porte du 8 ans et demi. 22 ans, j'ai la face d'un petit à qui on tape dans le dos pour qu'il fasse son rôle. Même que dans les McDo, on m'offre des berlingots. Ma sœur pourrait se faire passer pour ma mère. Ma mère pourrait se faire passer pour ma grand-mère. Ma grand-mère pourrait passer pour une morte parce qu'elle est morte depuis 5 ans. Et grand-maman, demande à Dieu ma barbe, c'est pour quand j'ai pas de barbe. Et puis, à peine de moustache, j'ai l'air d'un kid de 13 ans qui n'arrache. Je n'ai même pas un seul poil de chest non plus. Le seul poil que j'ai, moi t'avouer, qui est dans le cul. J'ai commencé le gym pour me sentir plus homme. Je bend juste la pine, j'ai l'impression c'est une tonne. J'ai aussi commencé à faire des gros haltères. Savais-tu qu'ils en font pas en bas de Saint-Livre calvaire? Mais mon orgueil est sauvé. Au moins ma blonde est moins forte que moi.
En moins veux-tu gager?
Ben là, commande bébé.
Non, arrête la trame. On va en jaser.
Mais là, quoi?
Tu penses que t'es plus fort que moi, toi?
Ben, je faisais ça l'homme. C'est scientifiquement prouvé que les hommes...
Ah ben, tabarouette! Tu penses ça, toi?
Ben, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. OK, ouch! Excuse, j'arrête, m'excuse.
Va dans la chambre!
Oui, tout de suite.
Puis va rêver au jour où tu vas enfin avoir la barbe. T'as l'air de caillou. Tu le savais-tu, ça?
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques!
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
8h40 dans Debout les comiques. Avez-vous déjà trompé économiquement votre conjoint, conjointe? Ça arrive plus souvent qu'on pense. La statistique étant même ahurissante, Valérie.
43% des adultes avouent que les finances, c'est un de l'ordre du privé, tellement qu'ils peuvent cacher de très grandes dépenses.
À leur conjointe.
À leur conjoint, conjointe. Puis de très grandes dépenses, là, je veux dire, tu sais, tu as parlé de l'exemple de la carte de crédit, mm-hmm. Martin, mais ça peut être un autre domicile, ça peut être un véhicule qu'ils ont acheté.
Acheter
ça peut
une autre maison.
Complètement. 43 % des adultes, c'est ce qu'ils ont révélé. Puis c'est quand même un sondage qui a été fait avec plus de 2000 personnes adultes. Fait que,
parce qu'il y a plein d'intentions de... Tu t'es encore acheté des souliers, tu t'es encore acheté un bâton de golf. Ça, c'est une affaire, mais de mentir économiquement sur des affaires plus grandes. Véronique veut réagir à notre sujet, elle est en ligne avec nous. Allô, Véronique.
Salut.
Véronique, toi, ça te parle, ce sujet-là, ce matin, là?
On l'a vécu de là pas si longtemps avec ma mère. Lors du renouvellement de son hypothèque, elle s'est aperçue que son conjoint avait monté la marge hypothécaire de 26 000 $.
Oh mon
Dieu! Mais mon Dieu, comment... à son insu, à l'insu de ta mère complètement, il a dépensé de l'argent pour son bénéfice à lui.
Ben, en fait, pas tant pour son bénéfice à lui, là, mais ouais. Il l'avait juste pas dit. Il faisait des achats là-dessus petit à petit.
Ah ouais, c'est ça.
Ma mère, il restait comme 2 ans à payer, selon elle, son hypothèque. C'était terminé. Puis quand elle est allée pour signer la fin, ben il a fallu qu'elle en reprenne une autre parce qu'il y a
incroyable.
Est-ce que ça peut être... C'était vraiment, là, c'était dans le but, c'était caché, là, c'était une cacheterie. C'est ouais, pas c'est genre ça. Juste qu'il dépassait sans trop se poser de questions. C'était pas une négligence, c'était volontaire. Ouais, exact.
Non, ben, c'est ça. Non, mettons qu'il allait à l'épicerie, il mettait ça sans marge, puis il faisait des affaires, il mettait ça sans marge, puis ça allait augmenter sans que...
Mais sans qu'on s'en rende compte,
oui. Oui, exactement.
Merci Véronique de nous avoir parlé, c'est apprécié.
Tu vois, c'est bien...
C'est passez une bonne journée.
Merci, toi aussi.
Tu vois, c'est 21 % des gens qui vont mentir sur une dette, mais c'est 39 % des gens qui vont cacher un achat et même un compte de banque en entier.
Oh, wow.
Un compte de banque en entier. Il explique dans le texte là, que j'ai lu sur CNNBC que c'est, entre autres, l'argent est tellement un stress pour les gens.
C'est clairement une source de tension. Hein.
Exactement. Puis tellement potentiellement même une source de séparation et de divorce que les gens préfèrent, quand ça dégénère un tout petit peu, le mettre de côté complètement, le cacher complètement et ne jamais en parler parce qu'ils ont trop peur.
Il y en a d'autres qui reconnaissent leur côté dépensier. Philippe Chapman, il dit, moi, ma femme gère complètement mes et nos finances. Il dit, moi, l'argent me brûle les doigts, littéralement.
C'est quasiment une dépendance, certaines personnes, que, par exemple, ils rentrent dans un centre d'achat, c'est impossible qu'ils ressortent pas avec 200-300$ de stock. Moi, j'ai vraiment pas cette pulsion-là. Mais comme toute autre pulsion et toute dépendance dans la vie, ça arrive à plusieurs personnes.
Il y a quelqu'un qui nous écrit sans se nommer, mon conjoint ne sait pas que j'ai une dette de carte de crédit de presque 10 000. Et a dit, j'ose pas y en parler par honte. Et parfois, ça me cause des crises d'anxiété dont je peux pas parler.
Ah, c'est ça. Mais tu sais, quand c'est ton argent à toi, c'est correct. Là. On dirait qu'on a comme deux axes. Là. Il y a de cacher
ton argent à toi, c'est pas
tes dépenses
problème,
à toi, à ton conjoint. Mais quand ça devient et l'argent de ton conjoint qui est impliqué, là, moi, je trouve que là, c'est malhonnête. Mais il y a aussi une affaire dont on parle pas, c'est la faible littératie des gens par rapport à
l'économie.
Tu as raison. T'sais, le gars là, qui a dépensé la marge de crédit, je le connais pas, là, celui dont nous a parlé Véronique, peut-être que le gars, il réalise pas qu'une marge de crédit hypothécaire, là, c'est pas comme une carte de crédit.
Ben non, c'est pas la même affaire.
Mais tout le monde, ça n'a pas compté.
Ben oui.
On va se le dire.
Ça, Max a écrit au 96.9, puis lui, c'est vraiment plus une affaire de quelqu'un qui est un petit peu innocent. Là. Son papa, malheureusement, aurait hypothéqué la maison 3 fois sans le dire à sa mère. Il y avait 3 cartes de crédit, 100% loadées, qu'il avait cachées complètement. Et sa mère a même appris qu'il y avait une fille à l'extérieur du Québec, donc potentiellement qui entretenait avec cet argent-là. Ouais, ouais. Tu sais, là, quand tu découvres le début du poteau
source
rouge,
de problèmes en tabarnouche. Ouais.
Le podcast Debout les comiques.
Ghostbusters. On connaît tous la chanson célèbre hymne au film Ghostbusters, oui. SOS Fantôme. Pour nous en jaser de la dernière mouture de cette franchise-là, notre prof de cinéma préféré, Philippe Lemieux, qui est là, prof au cégep de Saint-Jérôme.
Oui, bon matin, gars.
Bon matin, Philippe.
Donc, c'est la sortie de Ghostbusters Afterlife, l'héritage cette semaine, c'est ça?
Oui, SOS Fantôme, donc l'héritage, réalisé par Jason Reitman, qui est, on le dit déjà souvent, fils de Ivan Reitman, qui était le réalisateur du film original.
Est-ce que c'est une suite ou bien c'est plutôt un nouvel...
Un reboot, oui, comme on appelle en
anglais? Non, c'est la suite des deux premiers films, mais une génération plus tard.
OK.
Il y a juste le film avec la distribution entièrement féminine dont on ne tient pas compte.
Oui. Non, mais ça même dans l'histoire du cinéma, là, on n'en tient pas compte.
Même le public n'en a pas tenu compte.
Ça, c'est ça. Oui, exactement.
Et Jason, écoutez, il y a des origines canadiennes, ce nouveau film-là, SOS okay. Fantôme l'héritage. Jason est né à Montréal.
Ouais.
A déjà été en nomination deux fois pour l'Oscar.
C'est pas le gars de Juno, ça?
Oui, exactement. Ah, il a été en nomination comme meilleur réalisateur pour Juno en 2007 et pour Up in the Air en 2009. Et il y a une autre connexion à Ghostbusters, c'est que dans le deuxième volet des films originaux, il était petit garçon. À ce moment-là, il accompagnait son père sur le plateau et il a joué un tout petit rôle.
Ah
oui? Où il s'adresse aux Ghostbusters puis il dit « You know, my dad says you guys are full of crap. » Ou en français, « Vous savez, mon père considère que vous êtes tous des charlatans. »
Ah! C'est drôle, ça!
Et considérant que son père était le réalisateur, c'est quand même un peu drôle. Fait que, il y a des origines canadiennes, mais au-delà du réalisateur, il y a Dan Aykroyd qui avait écrit le scénario original.
Ah oui?
Qui est un acteur canadien.
Qui est d'originaire d'Ottawa, oui. Et qui faisait de la télévision à Toronto à l'époque et qui a écrit en 81 la première version de ce scénario-là intitulé Ghost Smashers.
Ah.
Le titre a changé en bout de ligne. Et son idée, c'était de mettre en vedette son ami John Belushi dans le rôle principal.
Es-tu sérieux?
Oui, mais malheureusement, l'année suivante, en 82, John Belushi est décédé.
Est mort.
Et donc, il y a quand même un hommage qui demeure dans les Ghostbusters originaux. Le personnage de Slimer, l'espèce de bibitte verte qui mange tout, là, est intentionnellement une caricature exagérée de John Belushi.
Ah, c'est drôle.
Le clin d'œil et l'intention qui est fait dans le film. Là.
OK.
Puis évidemment, on parle de Ghostbusters, on doit parler de la ville de New York qui est presque
qui est
un personnage.
La trame de fond, ouais, t'as raison.
Ah oui, c'est un personnage en soi, puis on le sait, tourner à New York, c'est pas tout le temps évident. Là. Puis bon, la base d'opération là, au Ghostbusters, c'est une caserne de pompiers, mais qui est véritable et qui fonctionne. Moi, je l'ai visité à
Pour
New York.
Vrai?
Oui, j'y ai été. C'est la caserne de pompiers Hook and Ladder numéro 8 qui existe depuis 1903.
OK, mais attends un peu, ça veut dire qu'elle est encore en utilisation.
Tout à fait, ben oui, il y a des
pompiers. Mais c'est un peu amusant en même temps, ben non, on fait juste gosser les pompiers si on y va, là.
Non, on fait juste gosser les pompiers si on y va.
Déjà? Ouais. Puis je trouve ça génial parce que sur la feuille que tu nous as remise, on voit bien une photo de toi dans la caserne en train de gosser les pompiers. Parfait, j'adore.
Mais ils ont quand même à l'intérieur, tu sais, une affiche de Ghostbusters.
OK, l'assume un peu, ouais, c'est ça.
C'est ça, on la voit aussi dans le film Le Masque avec Jim Carrey.
OK, c'est la même caserne.
Oui, et elle est tout près du World Trade Center. Ça a été l'une des premières casernes
à répondre.
Oui, quand cet événement-là est arrivé.
Il faut qu'on parle des effets spéciaux. On va en jaser.
On va aller en musique et tout de suite, on continue après avec Philippe Lemieux, notre prof de cinéma préféré. On parle de Ghostbusters, la suite. C'est comment ça s'appelle le vrai nom en français?
L'héritage.
SOS Fantôme, l'héritage. Ça sort quand, donc?
Aujourd'hui.
Oui.
Ah, aujourd'hui, OK, c'est correct.
Des comiques, de retour après ceci.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Voilà. J'ai bien hâte qu'on jase des effets spéciaux relatifs à Ghostbusters.
Vraiment.
Mais avant, il y a un endroit de New York aussi qu'on outre la caserne de pompiers qu'on pourrait visiter ou voir avec le film.
En effet, toute la finale du film, on le sait, a lieu sur la toiture d'un immeuble où vit Sigourney Weaver.
OK.
Et ça, c'est au 55 Central Park West.
Et alors, laisse-moi deviner, Philippe Lemieux, prof de cinéma, un peu freak.
Geek. Déjà allé.
T'es allé.
Oui, j'y suis allé et en fait, cet immeuble-là, quand on en sort, on est devant Central Park, on est en plein milieu de Central Park. Alors, imagine dans le film, quand tu les vois arriver avec la police qui a fermé les rues puis la foule qui est là, fermer cette rue-là.
Ça va être compliqué.
Au centre-ville, c'est l'enfer. Je pense même pas aujourd'hui qu'ils pourraient le faire, mais à l'époque, ça a bien passé. Sauf qu'il faut savoir évidemment que toute la scène finale qui est sur la toiture, elle est en studio. On n'est pas vraiment
reproduit.
C'est un décor qui a été construit au coût $1 million.
Quand même.
Avec un immense cyclorama qui est une toile, une espèce de photo géante de la ville de New York pour donner l'impression qu'on est sur une toiture, mais en fait, on ne l'est pas du tout. Mais l'immeuble de l'extérieur, on le reconnaît très bien. C'est là où habitait Sigourney Weaver dans le film, là, puis c'est facile à reconnaître.
On a parlé des effets spéciaux légèrement, parce que là, je veux qu'on en parle pour vrai.
Oui.
Quand même, Ghostbusters, t'as des acteurs réels, mais les personnages principaux, la vedette du film, comme dit Martin.
C'est les effets spéciaux.
C'est les effets spéciaux, là.
Oui, puis ce qui est particulier, on est en 84, faut pas l'oublier. Aucun effet numérique, évidemment, ça n'existait pas.
On ne peut pas vous l'oublier, honnêtement.
C'est difficile de l'oublier.
C'est tout traditionnel. 200 effets spéciaux pour ce film-là ont été produits au coût de $5.6 million.
Et mon Dieu.
Sur un budget total de $30 million, c'est quand même un gros morceau. Et c'est des effets traditionnels, l'animation, des maquettes, des marionnettes. Fait que je vais vous donner deux exemple que je trouve intéressant d'effet.
Okay.
Comment on faisait à l'époque, exemple, pour créer un ciel menaçant avec du nuage qui avance.
Noir avec un orange qui se déplace.
Aujourd'hui, ça se fait en post-production par ordinateur.
C'est deux clics, OK? Mais à l'époque, ce qu'il faut faire, c'est pomper de la fumée dans un aquarium. Et on filme ça au ralenti.
Ah!
Et ça, c'est l'image des nuages qu'on superpose dans le ciel. Et si on a besoin d'éclairs, ben, on met une petite lumière là-dedans qui flash et ça fait un ciel menaçant qui
avance. Incroyable! Ils sont-tu des brouillards? Il l'était en mots, t'as dit.
Ah, il faut trouver le moyen de le faire.
Ouais.
Et bon, on le sait, à la fin, le Stay Puffed Marshmallow Man, là, le monsieur en guimauve.
Le bandeau.
Oui, il explose et là, il y a de la guimauve partout. Le film se termine avec les personnages couverts de guimauve. Mais vous imaginez bien que être couvert de véritable guimauve pendant des heures et des heures de tournage...
Ça marche pas.
Non, c'est de la crème à raser. Excuse de ruiner le punch, mais c'est des litres et des litres de crème à raser.
Ah, c'est moins fun quand même. On disait, moi, j'imaginais, tu sais, entre les têtes, tu feras une petite lichette. Tu manges de la guimauve, mais non.
Ça va puer assez rapidement, cette histoire-là.
Ah, ouais, t'as raison.
C'est ça.
Est-ce que tu considères qu'on devrait revoir ce film-là, Philippe, avec le temps qui a passé, mettons, là?
Avant de voir celui qui sort, mettons?
Ben, écoute, c'est pas nécessaire, je pense, de le voir pour le nouveau.
Apprécier le nouveau.
Je pense qu'en soi, c'est un classique indémodable. On est rendu à 3 générations, je pense, d'enfants.
Ouais.
Tu sais, qui l'ont vu de père en fils, puis c'est il vieillit bien malgré les effets traditionnels. Je pense que c'est un film qui est facile à regarder.
La franche camaraderie aussi entre les personnages est le fun, c'est sympathique, c'est touchant.
Absolument.
Et pour les petits garçons, le véhicule qui reste après ça, tu sais, il y a le véhicule
Ecto One.
Ecto One.
Oui, c'est une Cadillac Ambulance de 1959.
Dans le film?
Oui.
Une Cadillac Ambulance.
Wow. Oui, à l'époque.
Ouais, mais hein. Merci beaucoup, Philippe Lemieux. Ça sort aujourd'hui, le nouveau, la suite, en fait, Nouvelle Génération.
Ta BD aussi sort aujourd'hui, le tome 2.
Déjà sorti, en fait.
Ah oui,
déjà
sorti. C'est génial.
Ben, on te recevra pour en jaser de ta BD, mon cher Philippe Lemieux, prof de cinéma au cégep de Saint-Jérôme.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'estquoi.com.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.